Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'ASEAN doit mettre en œuvre le développement axé sur les personnes. La solution de Sakhalin, le gouvernement encourage la police d'enquêter globalement. Les recommandations pour l'état de Rakhine et l'appréciation de Kofi Annan. Les dirigeants bouddhistes indonésiens affirment que le conflit de Rakhine n'est pas lié à la religion. Et enfin, Singapour augmente le statut des consulats à Medan. Voici le journal complet. Dans les 50 ans de son existence, l'ASEAN a réussi à créer l'ASEAN qui est unie, pacifique, stable et coopérée pour réaliser la prospérité commune. Dans le discours d'ouverture de la conférence du secrétariat national ASEAN-Indonésie avec le centre d'études de l'ASEAN, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mayor Fass, a dit à Jakarta le mercredi 30 août que l'ASEAN s'est avérée très bénéfique et très pertinente pour ses membres. Mayor Fass a déclaré que la croissance économique moyenne de l'ASEAN atteindrait 4,89% en 2017. L'ASEAN deviendra la puissance économique numéro 4 au monde en 2050. Mais les conditions géostratégiques et géoéconomiques qui sont dynamiques et l'incertitude posent un défi pour la paix de l'ASEAN. À cette fin, l'ASEAN doit mettre en œuvre un développement axé sur le peuple. L'écart de bien-être dans les États membres et les écarts de développement entre les États membres doit être minimisé. La classe moyenne de l'ASEAN, qui a atteint 150 millions en 2015 et atteindra 400 millions en 2020, doit pouvoir attirer des entreprises moyennes, petites et micro-entreprises, de sorte que les gens bénéficient de plus en plus de l'ASEAN. Selon Mayor Fass, le travailleur migrant de l'ASEAN doit avoir une protection maximale. L'Indonésie s'est engagée à lutter pour les droits des travailleurs migrants dans l'ASEAN par la finalisation de l'instrument de l'ASEAN sur la protection et le droit des travailleurs migrants. En outre, pour l'Indonésie, l'ASEAN devient l'occasion d'améliorer la commercialisation des biens et des services, de créer de l'emploi et de la concurrence et d'attirer des touristes. Mayor Fass a souligné que l'unité et la centralité de l'ASEAN devaient être maintenues pour faire face à la criminalité transnationale comme le terrorisme, le radicalisme et le trafic de stupéfiants et de drogues dangereuses. Le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité, Wiranto, a déclaré que le gouvernement, à travers la police, continue d'enquêter l'existence de Sakhalin. Ce groupe est soupçonné de répandre souvent de fausses informations et la diffamation contre certaines parties. Rencontré au palais de l'État Jakarta mercredi, Wiranto a expliqué l'existence du groupe de Sakhalin a causé des troubles dans la communauté. Cela a perturbé le mouvement du gouvernement qui encourage l'équité du développement dans divers domaines. Wiranto a appelé toutes les parties concernées afin que le cas de Sakhalin puisse être résolu profondément, y compris les motifs des violations commises par ce groupe.
Oleh karena itu sekarang kepolisian terus ya menggali, menjajaki, meneliti.
Pak Kongsekang, maintenant la police continue d'étudier, de rechercher, même d'enquêter approfondi pour voir en détail comment la construction du Sarasen. Est-ce que c'est juste un motif de gagner de l'argent? Est-ce que c'est seulement un motif de passe-temps ou y a-t-il une tendance politique? Pendant ce temps, le chef de la division de l'information publique de la police, le commissaire de police Martinus Temple, a déclaré que la police indonésienne travaillera de manière plus optimale dans la prise en charge du cas de Sarasen en augmentant le nombre d'enquêteurs à la direction de la criminalité de cyber de l'agence de la recherche criminelle de la police. Il a expliqué que le Sarasen n'est pas aussi simple que prévu. Selon lui, le groupe a 800 000 comptes dans les médias sociaux, de sorte que l'investigation prend du temps et d'efforts. Dans ce cas, la police a fixé 3 personnes en tant que suspects qui utilisent plusieurs installations pour répandre la haine liée à l'ethnie, la religion, la race et entre groupes. En outre, selon Martinus Tempul, la police coordonnera également avec diverses parties liées au traitement du cas de Sarasen, y compris avec le ministère de la Communication et de l'Informatique, ainsi que le Centre d'information sur l'analyse des transactions financières. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Ratna Alpamakdi, a rencontré le président Joko Widodo pour signaler ses plans de travail pour se rendre au Myanmar dans un proche avenir. Elle a déclaré au président qu'elle avait parlé avec plusieurs parties allant du ministre turc des Affaires étrangères, du ministre des Affaires étrangères du Bangladesh ainsi que la commission d'Annan Advisory pour Myanmar, Kofi Annan. La ministre Retno a déclaré aux journalistes au Palais Jakarta mercredi 30 août 2017 que la commission d'Annan Advisory appartenant à Kofi Annan a déclaré que l'aide et les efforts déployés par le gouvernement indonésien à l'état de Rakhine et aux réfugiés de Rohingya sont très exacts. La ministre des Affaires étrangères a expliqué que Kofi Annan avait l'espoir élevé que l'Indonésie pourrait aider d'autres pays à mettre en œuvre les recommandations qui ont été publiées.
Bagaimanapun juga, Bangladesh dan Myanmar.
Cependant, le Bangladesh et le Myanmar doivent bien collaborer pour s'occuper spécialement du traitement des réfugiés, parce que sans une bonne coopération, ce sera difficile de faire la gestion des réfugiés. Presque ce que l'Indonésie fait est très bien avec les recommandations émises par la commission de Kofi Annan. Par conséquent, l'espoir de Kofi Annan est très grand que l'Indonésie peut aider à mettre en œuvre les recommandations dans le rapport de Kofi Annan. Comme on le sait, l'Indonésie à ce jour a tenté d'aider les réfugiés de Rohingya de différentes façons, allant de la livraison de l'assistance de nourriture, de l'assistance logistique à la construction d'écoles et au plan de construction d'un hôpital. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a expliqué que l'Indonésie continuerait à adopter une approche globale pour aider le Myanmar à résoudre le conflit et à aider les Rohingyas qui sont victimes du conflit. Les chefs du Conseil bouddhiste d'Indonésie sont préoccupés par le conflit à Rakhine, le Myanmar, à la suite de la violence contre les Rohingyas. Le conflit ne doit pas être lié à une religion particulière. C'était la déclaration des dirigeants bouddhistes indonésiens, lue par le président de Parasada Buddha Dharmani Seren Syosyu, Indonesia, Mahapandita Utama Suhadi Senjaya à Jakarta mercredi. Il n'y a pas de religion qui peut être associée au terrorisme, car l'action ne reflète pas le comportement des personnes religieuses. Suhadi Senjaya espère que les événements à Rakhine peuvent encourager l'unité des communautés religieuses en Indonésie et dans le monde entier. Dans la déclaration, le dirigeant bouddhiste indonésien encourage également chaque parti à arrêter la haine et la violence pour prévenir d'autres dégâts. Le gouvernement de Singapour augmente son statut consulaire dans la ville de Medan pour devenir le consulat général pour renforcer les relations bilatérales entre l'Indonésie et Singapour qui entre maintenant à sa 50e année. Le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan, a déclaré mardi que l'augmentation du statut créerait certainement plus de coopération entre Singapour et Sumatra du Nord, qui profiterait aux deux parties. Il a déclaré que cette année est une année très spéciale pour l'Indonésie et Singapour, où cette année est la 50e année des relations diplomatiques entre les deux pays. Pendant ce temps, le consul général de Singapour à Medan, Mark Low, a déclaré qu'en augmentant le statut, il faudra plus de possibilités avec le gouvernement local, comme la coopération économique, culturelle, éducative et sociale. Le directeur du Sud-Est asiatique du ministère des Affaires étrangères, Denis Abdi, a déclaré à la même occasion qu'il appréciait grandement l'augmentation du statut du consulat de Singapour à Medan au consulat général. Avec cette augmentation de statut, le gouvernement de Singapour augmentera encore sa capacité de coopération au nord de Sumatra en termes de renforcement des relations avec l'Indonésie. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Serviteur, voici donc le commentaire et pour le titre « L'alphabétisation numérique pour faire face au canular ». Le processus judiciaire pris par la police nationale au Polri contre un certain nombre de personnes suspectées d'épandeurs de canulars ou de fausses nouvelles connues sous le nom de Saracen augmente la sensibilisation que l'alphabétisation numérique est très nécessaire aujourd'hui. Le groupe qui essaie de profiter du profit avec la propagation du canular, les gens ne devraient pas l'ignorer. L'alphabétisation numérique est nécessaire dans les utilisateurs du monde virtuel en général et en particulier les médias sociaux. L'alphabétisation numérique est l'habileté de trier et d'utiliser l'information sur les médias numériques et c'est ce qui pourrait être la réponse face au canular. Depuis l'année dernière, de nombreuses parties en Indonésie, même dans le monde, ont fait campagne pour la guerre contre le canular. Polri mène régulièrement des actions en justice, ainsi que les efforts du ministère des Communications et de l'Informatique pour bloquer certains sites web, y compris les comptes des médias sociaux qui ont prouvé de produire et diffuser du canular. Des groupes anti-canulars ont commencé à émerger pour faire partie de la résistance contre les épandeurs de canulars. Cela est considéré comme suffisamment puissant pour stopper le taux de croissance du canular. Mais au milieu d'un nombre croissant d'internautes et de médias sociaux, le fait sur le terrain montre que le canular ne peut pas mourir. Les avancées technologiques, en particulier dans les domaines de la communication et de l'information, et l'accès plus facile du public à son utilisation constituent un défi pour les parties concernées. D'une part, ce progrès est une nécessité pour la société moderne. En revanche, il y a des effets secondaires qui doivent être minimisés. L'un des efforts est d'accroître l'alphabétisation numérique. À l'heure actuelle, l'alphabétisation numérique est confrontée à des informations très dynamiques et nécessite plus de compréhension pour la digérer. D'autre part, les médias traditionnels doivent être en mesure de jouer son rôle en remplissant le vide et l'inégalité de l'information. Auparavant, ce vide était souvent occupé par des parties irresponsables, en particulier dans le cyberespace. Pour maximiser ce rôle, il semble que le slogan « Devienne la principale source d'information » doit être présenté à nouveau. Pendant ce temps, les leaders communautaires devraient être des modèles à suivre pour traiter toute l'information. L'attitude prise par un leader communautaire est très influente sur le choix des attitudes entourant les communautés. En outre, l'éducation de la petite enfance est également importante. Le curriculum de l'éducation formelle dès le début doit être constamment adapté aux besoins et au développement de l'époque, en particulier dans le domaine de l'alphabétisation numérique. Ceci est évidemment en synergie avec ce qui est donné par la famille et l'environnement. Donc, à la fin, tous sont connectés comme responsables communs. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.iv.
Chers auditeurs et auditrices de La Voix de l'Indonésie, de Radio République Indonésia, service international. On se rencontre encore dans le programme de l'histoire d'aujourd'hui. Dans l'édition du 31 août, nous avons plusieurs événements et nous commençons par l'événement du 31 août 1926. Le 31 août 1926, l'article de l'association de la nouvelle organisation appelée Jong Indonesia, où la jeunesse indonésienne a été légalisée. L'objectif était d'intégrer et de réaliser la mission de l'unité indonésienne. Fondamentalement, le nationalisme est basé sur la réalisation de l'Indonésie. Et avant de la déclaration de la promesse des jeunes en 1928, il y avait beaucoup d'associations de jeunes qui étaient encore provinciales. Par conséquent, le 15 août 1926, plusieurs associations de jeunes ont tenu une réunion à Jakarta pour discuter d'une institution permanente pour les jeunes indonésiens. Ensuite, ils ont créé The Indonesian Students Association, ou PPPI. En conséquence, le 31 août 1926, l'article de l'association de nouvelle organisation appelée Jong Indonesia, ou la jeunesse indonésienne, a été ratifié. L'association des étudiants indonésiens a proposé de tenir le deuxième congrès de la jeunesse indonésienne. Le congrès a généré la promesse des jeunes le 28 octobre 1928. Le prochain événement a eu lieu le 31 août 1962, lorsque Trinité et Tobago a déclaré son indépendance de l'Angleterre. Trinité et Tobago, un pays d'Amérique du Sud, a d'abord été colonisé par l'Espagne en 1697. Pendant plusieurs siècles, Trinité et Tobago a été colonisé alternativement par l'Espagne, la Grande-Bretagne, la France et les Pays-Bas. Trinité et Tobago est devenu un territoire colonisé en anglais depuis la signature du traité d'Amiens entre la France et la Grande-Bretagne en 1802. Trinité et Tobago a déclaré son indépendance de la Grande-Bretagne le 31 août 1962. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 31 août 2012, lorsque l'Angola a tenu les élections générales en vertu de la nouvelle constitution. Angola a organisé à nouveau les élections générales, législatives et présidentielles le 31 août 2012. Il s'agissait de la troisième élection générale qui a eu lieu depuis que l'Angola a mis fin à sa guerre civile qui a eu lieu pendant 27 ans. En 1975. C'était la première élection générale tenue en vertu de la nouvelle constitution qui éradique les élections directes présidentielles. Avec une nouvelle constitution promulguée en 2010, le chef du parti gagnant des élections générales est devenu automatiquement le président. Cette élection a assigné au président titulaire, José Eduardo dos Santos, pour répondre à son poste. Alors que le parti qui l'a dirigé, le Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola, a reçu le plus de voix lors des élections générales en gagnant environ 74% du total des votes. Chers auditeurs et auditrices, voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.iv.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel de titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, invite tous les membres de l'ASEAN à créer la région de l'Asie du Sud-Est en tant qu'une région pacifique, stable et prospère. Cela a été dit par la ministre Retno Marsudi dans son discours à l'événement Parade de l'ASEAN pour célébrer le 50e anniversaire de l'association de l'Asie du Sud-Est qui a eu lieu à rue Imam Bonjol au centre de Jakarta dimanche le 27 août 2017. La ministre Retno Marsudi invite tous les représentants du pays de l'ASEAN, des représentants du pays amicaux autres que l'ASEAN et les Indonésiens qui ont assisté à l'événement à établir de bonnes relations. Les bonnes relations, en particulier entre le pays d'Asie du Sud-Est, améliorent l'économie de ce pays. Le secrétariat général de l'ASEAN, en coopération avec le gouvernement indonésien, a organisé un défilé culturel pour célébrer le 50e anniversaire de l'ASEAN. Le Parade de l'ASEAN 50 a eu lieu à Jakarta, de Monas à l'hôtel Indonésie, via rue Tamrin, et se termine sur la rue Imam Bonjol avec une scène de divertissement. Les participants du Parade de l'ASEAN 50 proviennent des communautés, des organisations, des écoles, des entreprises, des ministres en Indonésie, des pays de l'ASEAN et des partenaires du dialogue de l'ASEAN et du secrétariat de l'ASEAN. Ils ont présenté le défilé des drapeaux de l'ASEAN, le défilé des costumes, marching band, défilé, la danse, la musique ainsi que la culture. Indonésie présente le marching band et des représentations culturelles de diverses régions telles que le Kalimantan Est, Kalimantan Ouest, Nusa Tenggara Ouest, la Papouasie et d'autres régions. Chaque pays membre de l'ASEAN anime également le parade de l'ASEAN 50, tels que le Japon, la Corée du Sud, la Norvège, la Russie et les États-Unis, à travers du défilé des coutumes, la danse et la culture typiques de leur pays. Outre de la ministre, plusieurs fonctionnaires du gouvernement indonésien ont également assisté. Entre autres, le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Rudiantara, le ministre de la Main-d'œuvre de la Transmigration, Hanif Dakiri, et le commandant de l'armée indonésienne, le général Gatot Nurmantio.
Dans les 50 ans de son existence, l'ASEAN a réussi à créer l'ASEAN qui est unie, pacifique, stable et coopérée pour réaliser la prospérité commune. Dans le discours d'ouverture de la conférence du secrétariat national ASEAN-Indonésie avec le centre d'études de l'ASEAN, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mayor Fass, a dit à Jakarta le mercredi 30 août que l'ASEAN s'est avérée très bénéfique et très pertinente pour ses membres. Mayor Fass a déclaré que la croissance économique moyenne de l'ASEAN atteindrait 4,89% en 2017. L'ASEAN deviendrait la puissance économique numéro 4 au monde en 2050. Mais les conditions géostratégiques et géoéconomiques qui sont dynamiques et l'incertitude posent un défi pour la paix de l'ASEAN. À cette fin, l'ASEAN doit mettre en œuvre un développement axé sur le peuple. L'écart de bien-être dans les États membres et les écarts de développement entre les États membres doit être minimisé. La classe moyenne de l'ASEAN, qui a atteint 150 millions en 2015 et atteindra 400 millions en 2020, doit pouvoir attirer des entreprises moyennes, petites et micro-entreprises, de sorte que les gens bénéficient de plus en plus de l'ASEAN. Selon Mayor Fass, les travailleurs migrants de l'ASEAN doivent avoir une protection maximale. L'Indonésie s'est engagée à lutter pour les droits des travailleurs migrants dans l'ASEAN par la finalisation de l'instrument de l'ASEAN sur la protection et le droit des travailleurs migrants. En outre, pour l'Indonésie, l'ASEAN devient l'occasion d'améliorer la commercialisation des biens et des services, de créer de l'emploi et de la concurrence et d'attirer des touristes. Mayor Fass a souligné que l'unité et la centralité de l'ASEAN devaient être maintenues pour faire face à la criminalité transnationale comme le terrorisme, le radicalisme et le trafic de stupéfiants et de drogues dangereuses. Le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité, Wiranto, a déclaré que le gouvernement, à travers la police, continue d'enquêter l'existence de Saracen. Ce groupe est soupçonné de répandre souvent de fausses informations et la diffamation contre certaines parties. Rencontré au palais de l'État de Jakarta mercredi, Wiranto a expliqué l'existence du groupe de Saracen a causé des troubles dans la communauté. Cela a perturbé le mouvement du gouvernement qui encourage l'équité du développement dans divers domaines. Wiranto a appelé toutes les parties concernées afin que le cas de Saracen puisse être résolu profondément, y compris les motifs des violations commises par ce groupe.
Oleh karena itu sekarang kepolisian terus ya menggali, menjajaki.
Par conséquent, maintenant la police continue d'étudier, de rechercher, même d'enquêter approfondie pour voir en détail comment la construction du Saracen, est-ce que c'est juste un motif de gagner de l'argent, est-ce que seulement un motif de passe-temps ou y a-t-il une tendance politique? Pendant ce temps, le chef de la division de l'information publique de la police, le commissaire de police Martinus Temple, a déclaré que la police indonésienne travaillera de manière plus optimale dans la prise en charge du cas de Saracen en augmentant le nombre d'enquêteurs à la direction de la criminalité de cyber de l'agence de la recherche criminelle de la police. Il a expliqué que le Saracen n'est pas aussi simple que prévu. Selon lui, le groupe a 800 000 comptes dans les médias sociaux de sorte que l'investigation prend du temps et d'efforts. Dans ce cas, la police a fixé 3 personnes en tant que suspects qui utilisent plusieurs installations pour répandre la haine liée à l'ethnie, la religion, la race et entre groupes. En outre, selon Martinus Tempul, la police coordonnera également avec diverses parties liées au traitement du cas de Saracen, y compris avec le ministère de la Communication et de l'Informatique, ainsi que le Centre d'information sur l'analyse des transactions financières. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a rencontré le président Joko Widodo pour signaler ses plans de travail pour se rendre au Myanmar dans un proche avenir. Elle a déclaré au président qu'elle avait parlé avec plusieurs parties allant du ministre turc des Affaires étrangères, du ministre des Affaires étrangères du Bangladesh ainsi que la commission d'Annan Advisory pour Myanmar, Kofi Annan. La ministre Retno a déclaré aux journalistes au Palais Jakarta mercredi 30 août 2017 que la commission d'Annan Advisory appartenant à Kofi Annan a déclaré que l'aide et les efforts déployés par le gouvernement indonésien à l'état de Rakhine et aux réfugiés de Rohingya sont très exacts. La ministre des Affaires étrangères a expliqué que Kofi Annan avait l'espoir élevé que l'Indonésie pourrait aider d'autres pays à mettre en œuvre les recommandations qui ont été publiées.
Bagaimanapun juga, Bangladesh dan Myanmar.
Cependant, le Bangladesh et le Myanmar doivent bien collaborer pour s'occuper spécialement du traitement des réfugiés. Parce que sans une bonne coopération, ce sera difficile de faire la gestion des réfugiés. Presque ce que l'Indonésie fait est très bien avec les recommandations émises par la commission de Kofi Annan. Par conséquent, l'espoir de Kofi Annan est très grand que l'Indonésie peut aider à mettre en œuvre les recommandations dans le rapport de Kofi Annan. Comme on le sait, l'Indonésie à ce jour a tenté d'aider les réfugiés de Rohingya de différentes façons, allant de la livraison de l'assistance de nourriture, de l'assistance logistique à la construction d'écoles et au plan de construction d'un hôpital. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a expliqué que l'Indonésie continuerait à adopter une approche globale pour aider le Myanmar à résoudre le conflit et à aider les Rohingyas qui sont victimes du conflit. Les chefs du Conseil bouddhiste d'Indonésie sont préoccupés par le conflit à Rakhine, le Myanmar, à la suite de la violence contre les Rohingyas. Le conflit ne doit pas être lié à une religion particulière. C'était la déclaration des dirigeants bouddhistes indonésiens, lue par le président de Parasada Buddha Dharma Nisiren Syosyu, Indonesia, Mahapandita Utama Suhadi Senjaya à Jakarta mercredi. Il n'y a pas de religion qui peut être associée au terrorisme, car l'action ne reflète pas le comportement des personnes religieuses. Suhadi Senjaya espère que les événements à Rakhine peuvent encourager l'unité des communautés religieuses en Indonésie et dans le monde entier. Dans la déclaration, le dirigeant bouddhiste indonésien encourage également chaque parti à arrêter la haine et la violence pour prévenir d'autres dégâts. Le gouvernement de Singapour augmente son statut consulaire dans la ville de Medan pour devenir le consulat général pour renforcer les relations bilatérales entre l'Indonésie et Singapour qui entre maintenant à sa 50e année. Le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan, a déclaré mardi que l'augmentation du statut créerait certainement plus de coopération entre Singapour et Sumatra du Nord qui profiterait aux deux parties. Il a déclaré que cette année est une année très spéciale pour l'Indonésie et Singapour où cette année est la 50e année des relations diplomatiques entre les deux pays. Pendant ce temps, le consul général de Singapour à Medan, Mark Low, a déclaré qu'en augmentant le statut, il faudra plus de possibilités avec le gouvernement local comme la coopération économique, culturelle, éducative et sociale. Le directeur du Sud-Est asiatique du ministère des Affaires étrangères, Denis Abdi, a déclaré à la même occasion qu'il appréciait grandement l'augmentation du statut du consulat de Singapour à Medan au consulat général. Avec cette augmentation de statut, le gouvernement de Singapour augmentera encore sa capacité de coopération au nord de Sumatra en termes de renforcement des relations avec l'Indonésie. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Serviteur, bonsoir. Rencontrons-nous à nouveau dans notre magazine culturel. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la course de Pacu Jalur. Serviteur, le festival Pacu Jalur a eu lieu au bord de Nakosa, Taluk Kuantan, la réserve de Kuantan Singingi ou Kuansing en province de Riau, du 23 au 27 août hier. Dans la langue locale, le mot Jalur signifie bateau. Donc, Pacu Jalur est un concours de bateaux sur la rivière en utilisant un long bateau en bois. Hier, il y avait environ 120 bateaux pour être les plus rapides. Les festivités du festival sont une attraction touristique pour les touristes étrangers et locaux ainsi que les résidents locaux. Pacu Jalur est la sagesse locale des gens de Kuantan Singingi. Cette course utilisant un bateau d'une longueur de 25 à 40 mètres. L'histoire de Pacu Jalur commence au XVIIe siècle où Jalur ou bateau est le principal moyen de transport des villageois à Rantau Kuantan, la région au long de la rivière Kuantan. À ce moment-là, le transport terrestre n'est pas encore développé. En conséquence, le bateau est utilisé comme moyen de transport important pour les villageois, principalement utilisé comme moyen de transport des produits agricoles ainsi que des transports maillards. Puis les bateaux existent avec les magnifiques sculptés comme les sculptures de serpents, de crocodiles et de tigres. Ce changement marque également le développement de la fonction de bateau pour montrer l'identité sociale. Seule l'autorité territoriale et les nobles utilisaient le bateau orné. Puis, peu à peu, le bateau n'est pas seulement décoré, mais aussi contesté. La concurrence de vitesse entre ces bateaux est alors connue sous le nom de Pacu Jalur. Initialement, le concours de Pacu Jalur est organisé pour commémorer le grand jour de l'islam ou la fête, mais maintenant pour commémorer le jour de l'indépendance de la République d'Indonésie. Ces retards dans la course de Patou Diallo, sur chaque bateau, il y a environ 50 à 60 rameurs de bateaux. Le nombre de rameurs varie dans chaque bateau car il est ajusté à la longueur du bateau. De 50 ou 60 rameurs, il y a des membres de l'équipe avec la tâche respective comme le commandant et timonier. Serviteur, la course de Patou Diallo utilise le système knock-out de sorte que le participant perdant au debout ne peut plus jouer lorsque les gagnants seront contestés pour obtenir le gagnant principal. Contrairement aux autres courses, Patou Diallo est commencé par un signe tout à fait unique, à savoir en tirant le canon trois fois. Ce canon est utilisé de sorte que le son de signe du commencement de la course est écouté parce que l'immensité de la reine de course et les spectateurs bruyants qui ont assisté à cette course typique de Kuantan Singingi. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix d'Inglise à Jakarta. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous dans l'Indonésie en couleur. Pour l'édition ce soir, nous vous invitons à connaître l'art de Macapat. Macapat est une chanson ou un poème traditionnel javanais. Chaque ligne de phrase de Macapat est appelée gatra. Chaque gatra a un certain nombre de certaines syllabes ou guru wilangan et se termine par le son de la dernière rime appelée guru lagu. Macapat avec d'autres noms peuvent également être trouvés dans la culture de Bali, Sasak, Madura et Sunda. Ailleurs, Macapat se trouve également à Palembang, Sumatera du Sud et Banjarmasin, Kalimantan du Sud. Macapat est prévu d'exister en Java à la fin de l'ère de Majapahit, parce que dans l'est de Java et de Bali, Macapat a été connu avant l'arrivée de l'islam dans ces régions. Généralement, Macapat est défini comme Macapapat-papat ou lire tous les quatre syllabes séquentiellement. Macapat contient les enseignements de la vie très humaine si l'enseignement est appliqué dans la vie quotidienne, parce que l'art est plein de conseils et de la philosophie. Lorsque la religion islamique a commencé de propager, Macapat utilisé comme un moyen de propagande par le wali. La sagesse du wali Songo dans les efforts de propagande de l'islam par les médias de l'art apporte des résultats exceptionnels. Près de 90% des habitants de l'archipel reconnaissent qu'ils sont musulmans. Bien que la vie des walis ne soit pas tout à une époque, mais leur lutte ou leur effort est une étape persistante, ordonnée, propre et pas une question de hasard. Macapat est divisé en 11 tembang ou chansons avec la philosophie et la signification différentes. Basé sur la fonction de son type et de l'ordre, tembang Macapat décrit en fait les étapes de la vie de l'homme, de l'esprit naturel à la mort. La première étape de tembang Macapat est décrite dans Maskumambang. Cette chanson décrit l'être humain qui est encore à l'esprit de la nature est ensuite mis dans l'utérus de nos mères. On continue avec la naissance ou Mijil. Sinon est la description du jeune âge, ce qui est merveilleux moment avec plein d'espoir et rêve. Kinanti est une période de formation de l'identité et de poursuivre un chemin vers les idéaux. Asmarandana décrit des moments de romantisme. Gambu, avec le premier mot Jumbu, signifie uni, l'engagement d'unir l'amour dans un mariage. Dan d'Angoula est la description de la vie sédentaire avec le bien-être et la liberté de la dette. Durma montre la gratitude à Allah ou Dieu de sorte que nous devrions faire la charité et le partager avec l'autre. Pankur ou Munkur signifie les moyens d'éviter la colère et la luxure négative. Pendant ce temps, Megatru ou Megatro signifie les moyens d'âme séparés du corps quand l'esprit va vers l'éternité. Chers auditeurs, c'était l'Indonésien Color pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci à écouter la voix d'Indonésie à Jakarta. Voici le magazine musical qui s'agit des musiques traditionnelles et pop d'Indonésie. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons des chansons pop nostalgiques chantées par Ernie Johan. Pour ouvrir notre rencontre, voici sa première chanson intitulée « La baie de Bayur ». Bonne écoute. Chers auditeurs, c'était la chanson d'Ernie Johan intitulée « La baie de Bayur ». Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voe.ce.id, et nous vous invitons également à rejoindre La Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voeindonesia. Ernie Johan a commencé d'abord sa carrière dans les pays voisins à Singapour. Pourquoi son premier debut à Singapour? Parce que Ernie Johan a suivi ses parents, un diplomate indonésien qui a servi à Singapour. Une fois, elle a participé à la compétition de radio singapourienne Talent Time et a réussi à devenir finaliste et son nom est plus connu par le public à Singapour. Après cela, une chanteuse avec le nom complet Ernie Irawati Johan avec sa sœur Lisda Johan a formé un duo de chant nommé Ernie Sister. En 1962, elles ont sorti un album intitulé Tourisme de Singapour avec un single principal intitulé Surya Gemilang. En 1963, la famille d'Ernie est revenue en Indonésie. Le premier président de l'Indonésie, Insinyur Soekarno, a souvent invité Ernie à chanter afin d'accueillir les invités d'État au Palais d'État, Jakarta. À cette époque, Ernie Johan avait rejoint le groupe Madenas, dirigé par Dimas Wahab, le père de trois membres du célèbre groupe de Beragri dans les années 1990. Bon, c'est du tard avant de connaître mieux Ernie Johan, écoutons maintenant sa chanson suivante intitulée « Tu es toujours dans mon cœur ». Bonne écoute.
Bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya kasihku serahkan.
Serviteur, vous venez d'écouter la chanson d'Ernie Johan intitulée « Tu es toujours dans mon cœur ». Ernie Johan a atteint son âge d'or dans les années 1970. Son travail obtient toujours une réaction positive des amateurs de musique dans le pays. L'album intitulé « B de Bayur » par exemple, cet album avec le single dont le titre est même que celui de son album B de Bayur, si populaire à cette époque. Grâce à cette chanson, le nom d'Ernie Johan a enregistré comme première chanteuse qui accepte Golden Record car son album a vendu des millions de copies. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons d'Ernie Johan intitulées Crépuscule à la frontière de ville et Perle perdue. Bonne écoute et à demain.
Atas kota selalu teringat padamu saat kita akan berpisah entah untuk berapa lama. Senja berganti, wajahmu selalu terbayang. Waktu engkau ku lepaskan, berdebar hati di dada. Sana menunaikan tugasmu senja di batas kota terlukis di dalam kalbu.
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Welcome.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voix Indonésie. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.